VOA Afrique, les infos. À Washington.
Georges Bion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le Nigeria a haussé le ton hier en réponse à la nouvelle vague de violence xénophobe qui a eu lieu en Afrique du Sud cette semaine. Le gouvernement nigérien avait annoncé dès lundi vouloir prendre des mesures décisives contre l'Afrique du Sud où des attaques et des pillages de commerce plus ou moins visés contre les étrangers se sont propagés comme une traînée de poudre aux quatre coins du pays et ont fait 7 morts depuis le début de la semaine. Bien que l'on ne connaisse pas la nationalité des victimes, le président Muhammadu Buhari a aussitôt exprimé son mécontentement du traitement infligé à ses concitoyens et a assuré vouloir garantir leur sécurité. Pretoria, pour sa part, a fermé temporairement ses missions diplomatiques au Nigeria à la suite de menaces. Le pape François, arrivé hier au Mozambique, rencontre aujourd'hui les forces politiques et civiles du pays, occasion de les encourager à consolider un accord de paix encore tout frais. Il débute donc aujourd'hui sa journée par une rencontre privée avec le président Philippe Nyusi, qui souhaite briguer un deuxième mandat lors d'une élection prévue le 15 octobre. La visite du pape au Mozambique intervient un mois après la signature d'un traité de paix historique entre le gouvernement de Maputo et la RENAMO, ancienne rébellion devenue le principal parti d'opposition au Mozambique. Une guerre civile avait pris fin il y a 27 ans, mais la RENAMO n'avait jamais désarmé. Et le pape François rencontre, je l'ai dit, les forces politiques, mais hier, il a été accueilli avec enthousiasme dans les rues de Maputo. Les précisions d'Irénée Amanongo.
Sur le tarmac de l'aéroport international de Maputo, le pape François a été accueilli par le président mozambicain Philippe Nyusi. De nombreux fidèles qui scandaient « Vive notre pape François » s'étaient massés à l'aéroport tentant d'apercevoir le Saint-Père avant qu'il ne parte pour le centre-ville. C'est un moment très spécial. Être ici est un grand honneur, a lancé Katharina Simbine, une Mozambicaine de 29 ans. J'espère que cette visite nous apportera une vraie paix, nourrit de son côté Arnaldo Menezes, un étudiant de 25 ans. La visite du pape dans l'ex-colonie portugaise à majorité chrétienne intervient un mois après la signature d'un accord entre le gouvernement. Le pape se rendra vendredi à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète, et doit conclure sa deuxième tournée sur le continent africain, dans l'île Maurice, où il est attendu lundi.
Burundi, la commission d'enquête de l'ONU sur ce pays fait état d'un climat de peur dans cette nation d'Afrique centrale à moins d'un an des élections générales de 2020. Dans un rapport qui sera présenté le 17 septembre devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, cette commission décrit comment des autorités locales burundaises et des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, intimident la population burundaise. John Didon, agent à Genève, Doudou Diène, président de cette commission d'enquête sur le Burundi.
Il y a un climat de peur parce que c'est un contexte préélectoral et nous savons que l'histoire du Burundi confirme que les violations les plus graves des droits de l'homme sont liées à ça. Et ce que nous avons déjà documenté dans notre rapport précédent, c'est la persistance des violations des droits de l'homme et toutes les informations que nous avons recueillies, et nous avons fait des enquêtes depuis maintenant des semaines et des mois, indiquent que ces violations-là continuent, persistent. Ce que nous voulons mesurer, c'est est-ce qu'il va y avoir une aggravation à cause du contexte électoral.
Vous parlez de la persistance d'une violation des droits de l'homme au Burundi, mais l'ONU n'est pas autorisée à faire des enquêtes là-bas. Comment vous procédez?
Nous procédons d'une manière classique, la méthode utilisée est de recueillir l'information à toutes les sources les plus crédibles possibles et les recueillir. Alors nous les recueillons auprès de qui? D'abord, les contacts électroniques et autres avec le peuple burundais sur place. Deuxièmement, avec la diaspora, utiliser le mot burundais, c'est-à-dire le mot classique, tous les Burundais qui sont à l'extérieur, organisés en ONG, en association, etc., et qui, eux, sont en lien direct avec le pays, leur famille, leurs relations, qui sont informés. Nous savons aussi toutes les informations que peuvent nous donner les partenaires du Burundi, c'est-à-dire à la fois les partenaires bilatéraux, mais parce qu'ils peuvent fournir des informations objectives, mais les ONG internationales, comme Amnesty, le mandat d'Achio, qui font des enquêtes et qui ont aussi des contacts dans le pays, qui publient des rapports réguliers, et enfin les médias.
Le gouvernement burundais pourrait vous répondre que c'est un acharnement, il y a mieux à faire ailleurs, non?
Non, ils l'ont dit. Je crois que ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons 3 mandats fondamentaux que nous remplissons. Un, c'est de documenter d'une manière objective et rigoureuse et précise les violations des droits de l'homme. Nous l'avons fait dans nos deux rapports précédents, nous allons continuer à le faire. La deuxième, c'est d'analyser si ces violations-là constituent des crimes contre l'humanité. Troisièmement, nous devons identifier les responsabilités de ces violations des droits de l'homme et enfin formuler des recommandations.
Ça fait des années que l'ONU fait des rapports sur les droits de l'homme et après, quels résultats? Qu'est-ce que vous prenez comme action?
Je vous dirais que la question, vous devriez la poser au Burundi. Posez-la aux organisations non gouvernementales burundaises, à l'intérieur ou à l'extérieur. Eux, ils savent que l'analyse que nous faisons, l'identification des responsabilités et autres, donne un tableau extrêmement précis de la situation. Demandez aux pays membres des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme, des États-Unis, aux pays africains et autres. Ils vous diront que nos rapports leur servent d'information pour élaborer non seulement leur stratégie et leur rapport avec le Burundi, mais également en ce qui concerne les droits de l'homme en général. Notre rapport est un rapport absolument crédible. La transformation finale maintenant ne dépend pas de la commission d'enquête.
Doudou Diène, président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, joint à Genève. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé mercredi le lancement prochain de larges consultations portant notamment sur la Constitution, alors que l'opposition lui attribue la volonté de vouloir modifier la loi fondamentale afin de pouvoir se représenter en 2020. Ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de la Guinée, Alpha Condé a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats sur le continent, 2 maximum en Guinée. Il n'a jusqu'à présent pas annoncé de modification de la Constitution afin de pouvoir se représenter en 2020 à la fin de son deuxième mandat qui s'achèvera en octobre, mais plusieurs de ses déclarations ces dernières années ont été interprétées dans ce sens. En Égypte, le plus jeune fils du défunt président islamiste Mohamed Morsi est décédé hier soir d'une crise cardiaque au Caire, a annoncé l'avocat de la famille. Abdallah Morsi, âgé de 25 ans, a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il était au volant de son véhicule. Un ami qui était avec lui a pu stopper la voiture et l'emmener à l'hôpital, a ajouté l'avocat, disant s'attendre à ce que l'enterrement ait lieu ce jeudi même. Issu des frères musulmans, son père Mohamed Morsi est mort le 17 juin dernier en plein procès.
Nos infos sur voaafrique.com.
Le gouvernement de Boris Johnson en Grande-Bretagne a renoncé à essayer d'empêcher l'adoption définitive d'une proposition de loi qui, le contraire, a demandé un nouveau report de 3 mois du Brexit s'il ne parvient pas à un accord avec l'Union européenne d'ici au 31 octobre. Le texte voté mercredi par la Chambre des communes va être transmis à la Chambre des lords où certains élus conservateurs pro-Brexit envisageait de déposer une série d'amendements pour ralentir son examen et empêcher son adoption avant la suspension des activités du Parlement pour 5 semaines lundi prochain. Mais le gouvernement, qui ne dispose plus de la majorité à Westminster, a fait savoir tôt ce matin qu'il renonçait à s'opposer à l'adoption de la loi, ouvrant donc la voie à un report du Brexit jusqu'au 31 janvier 2020. Un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui dans le centre de Kaboul, en Afghanistan, non loin de l'ambassade des États-Unis et du quartier général des forces de l'OTAN, ont annoncé les autorités afghanes. Au moins 5 personnes ont été tuées et 25 autres blessées dans l'explosion. Les talibans ont aussitôt revendiqué l'attentat, a indiqué leur porte-parole Zabihullah Mujahid sur Twitter, affirmant qu'il visait un convoi d'envahisseurs étrangers. La capitale afghane avait déjà été le théâtre lundi d'un attentat qui a fait 16 morts, lui aussi revendiqué par les talibans. Les insurgés négocient depuis des mois avec les États-Unis un accord en vue de mettre fin à un conflit vieux de 18 ans. Et puis en Italie, le nouveau gouvernement de Giuseppe Conte, porté par une majorité pro-européenne et penchant à gauche, a prêté serment aujourd'hui devant le président Sergio Mattarella avant un premier conseil des ministres. Les 10 ministres du mouvement 5 étoiles, les 9 du Parti démocrate ainsi que celui appartenant à Libre et Égaux et la ministre de l'Intérieur sans étiquette ont prononcé la traditionnelle formule « Je rends d'être fidèle à la Constitution ». Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.